Bonjour à tous. Vous allez bien tous ce matin? Hier, je suis allé voir mon frère Michel Cotefire et il est très affaibli, mais rempli de foi, vraiment rempli de foi. Et sa femme, ils sont admirables tous les deux, vraiment. Dans une situation telle qu'elle est là, voir qu'il ne bouge pas d'un iota. Jésus est celui qui a pardonné nos péchés, Jésus est celui qui guérit nos maladies. Et ils le confessent, et ils le croient, et ils sont forts. Magnifique, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de foi. Que Dieu les bénisse. Amen. Ils viennent d'avoir des victoires, on prie pour cela au sujet d'une maison qu'une bonne femme squatte depuis des années, une maison qui leur appartient. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui prient avec nous, ils savent. Eh bien, ça y est, ça fait des années. Et Michou a tout d'un coup eu l'idée, elle a dit, mais Sylvie, il faut que tu lises un passage dans Révélation Bible pour avoir la victoire. Tu sais, il faut bien connaître l'ennemi. Et elle lui a recommandé de lire le passage où, vous savez, j'explique les portes du temps et aussi que le diable est un esprit inférieur, animal, etc. Et bon, ils se sont mis à prier avec cette idée, cette vision comme ça. Et ça s'est débloqué, mais rapidement, alors que ça faisait des années. Gloire à Dieu, hein? En tout cas, nous, on est tout contents avec eux aussi de cela, parce que ça va leur faire un peu, ça va les laisser respirer un peu, parce que c'est une maison qui leur appartient, qui était squattée par une chrétienne. Et c'était très difficile, elle ne voulait pas partir, elle squattait là. Et elle avait même réussi à trouver le moyen d'avoir la loi pour elle. C'est incroyable, pendant des années. Et puis voilà, maintenant, gloire à Dieu, c'est levé. Merci Seigneur, on est très contents. Et puis alors, on est aussi contents pour notre sœur Nicole qui avance. Et là, je vais lui envoyer comment avoir l'abondance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez que j'y envoie ça? Ça va lui faire du bien, hein? C'est un livre excellent et donc elle va le recevoir, on va l'envoyer dès demain. Elle va bien, elle vous salue bien, que Dieu la bénisse. Alors, vous savez ce qu'elle fait? Elle copie les prédications pour pouvoir les écouter dans la voiture. Et aussi les chants et tout ça, donc c'est magnifique. Je suis sûr que ce n'est pas la seule qui le fait, mais elle a demandé la permission de le faire. Elle est formidable, que Dieu la bénisse. Voilà. On va écouter maintenant la parole de Dieu, on va ouvrir dans nos Bibles Matthieu chapitre 5. C'est la suite du sermon sur la montagne. Je le prends, en suivant, parce que Jésus, il a fait ce sermon, mais ce sermon a un commencement et une fin. Et il n'a pas dit n'importe quoi dans n'importe quel sens. Et son intelligence divine est d'une finesse, est d'une profondeur. Et je pense que ça vaut la peine de prendre chaque phrase et de bien méditer ces choses. On peut trouver encore beaucoup plus que ce que j'ai trouvé. Mais déjà ça, c'est bien pour nous. Ça, c'est déjà bien pour nous. Donc, on va aller, Dieu voulant, jusqu'au bout de ce sermon sur la montagne. Hier soir, j'étais avec le pasteur Emmanuel et on parlait justement de ces choses-là. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le sermon sur la montagne? Il dit, amen, ça c'est vrai. Et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable, ce sermon. Vraiment. Matthieu, chapitre 5, versets 19 à 20. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Alors, il y a des versions plus anciennes où le texte diffère un peu, et où Jésus dit, c'est pourquoi celui qui supprimera un de ses plus petits commandements. Là, dans nos versions modernes, le texte est un peu affaibli. C'est celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Alors, ça veut dire la même chose, mais moi j'aime bien, c'est pourquoi. Voilà la raison pour laquelle, on pourrait même dire, c'est encore plus, c'est comme quand on dit la pleut, hein, c'est plus mouillé que la pluie, vous ne trouvez pas? C'est pourquoi. Alors là, il dit celui donc qui supprimera. Ce donc est important. c'est pourquoi, ou ce donc, ils introduisent les conséquences que Jésus va tirer du fait que la loi est permanente. Maintenant, ce qu'il dit là, il le dit à des gens qui sont acquis à sa cause. Bien sûr, il y a toutes sortes de personnes qui l'écoutent. On ne peut pas faire autrement, hein. On ne peut pas dire, on ne peut pas choisir et trier qui c'est qui écoute. Mais là, il parle vraiment à ceux qui sont acquis à sa cause. Il est clair qu'il ne suffit pas de mettre en pratique la loi pour être sauvé. D'ailleurs, c'est impossible de la mettre en pratique. L'apôtre Paul, plus tard, va le dire très clairement. Vous trouvez ça dans Galates 3, 22, où il dit « L'Écriture a tout renfermé sous le péché. » C'est-à-dire la loi, l'Écriture, c'était ce qu'il y avait avant le Nouveau Testament. Donc, c'était ça l'Écriture, considérée comme l'Écriture. Il dit ben, tout a été, c'était la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ont tout renfermé. C'est-à-dire nous avec, sous le péché. C'est-à-dire on est là-dedans, comme dans une boîte avec un couvercle par-dessus. Afin que ce qui avait été promis, c'est-à-dire la purification des péchés, soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Jusqu'à Jésus-Christ, il fallait que tout soit renfermé sous cette loi. Et c'était impossible de s'en sortir, c'était sous le péché. Par la loi, on connaît le péché. Si la loi ne dit pas « ne vole pas », on peut voler. Si la loi... C'est ce que Paul dit, hein? Alors voilà, donc on était tous, à cause de la loi, enfermés, donc dans l'impossibilité de mettre en pratique cette loi. Puisque la loi elle-même dit, si tu observes tout, mais que tu n'obéis pas à un des commandements, c'est comme si tu avais désobéi à tous. C'est terrible. Donc l'enseignement de Jésus-Christ révèle donc le rapport entre la loi et le royaume de Dieu. Alors, on comprend que, un, parce que Jésus n'est pas venu abolir, mais pour accomplir la loi, et deux, parce que pas un iota, c'est-à-dire, si vous voulez, un point sur un i, ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli, le critère de grandeur dans le royaume de Dieu, c'est la conformité à la loi. Ou alors, je n'ai pas compris, moi. C'est ça que ça veut dire. Un disciple de Jésus, il est appelé à obéir à la loi et en plus à la faire connaître, à faire connaître qu'elle n'a pas été abolie et à l'enseigner. Maintenant, il est vrai que tous les commandements n'ont pas le même poids. On va lire Matthieu chapitre 23-23. Si vous voulez avec moi, Matthieu 23, 23. Voilà ce qui est dit là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Vous voyez, il y a des petits commandements, des commandements de moindre importance, et puis il y en a qui sont plus importants. C'est ce que Jésus nous dit là. Mais même le plus petit commandement, mes frères et sœurs, il vient de Dieu. Et donc, il est important, puisqu'il vient de Dieu. Dit quand même pas, Dieu ne dit pas n'importe quoi. Et ça signifie donc une chose très importante, c'est que si on atténue l'autorité d'un commandement, même s'il est petit, eh bien, si on restreint l'autorité d'un commandement, même si c'est un tout petit machin, on offense Dieu qui a institué ce commandement. Jésus dit, si vous faites cela, vous vous placez vous-même à la place du plus petit dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit au sujet de la longueur des cheveux? J'ai dit, si, j'assume. Vous vous rappelez? Moi, je serai certainement appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Une sale tête, hein? Vous voyez, notre obéissance, c'est notre obéissance qui détermine notre rang dans le royaume des cieux. Et Jésus, il va encore plus loin. Jésus va plus loin. Ce n'est pas seulement notre rang qui est assuré dans le royaume des cieux. Ce n'est pas seulement notre rang qui est en jeu, mais c'est aussi notre accès. L'accès même au royaume de Dieu. Il dit, il n'est pas possible d'y entrer sans pratiquer une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Rigole pas, hein? Alors, parlons un peu des scribes et des pharisiens. Ils étaient connus pour leur justice. Ils avaient calculé que la loi contenait 248 commandements et 365 interdictions. Et ils aspiraient à les observer tous. Alors, en quoi, pose la question, en quoi la justice de Jésus-Christ peut-elle dépasser une justice aussi exigeante? Comment poser la justice de Jésus-Christ comme condition pour pouvoir accéder au royaume de Dieu, sachant cela? On pourrait dire, ah ça y est Michel, tu es tombé dans la doctrine du salut par les œuvres. Ouh, t'es peut-être pas encore tombé, mais t'es en train, t'es au bord, tu vas tomber dedans, attention! Et puis on pourrait dire aussi, Jésus se contredit, puisqu'il vient de dire que le royaume de Dieu appartient aux pauvres qui ne peuvent même pas se prévaloir d'être justes. Vrai ou faux? Alors, est-ce qu'il se contredit? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis certain que dans son auditoire, sur cette montagne, les gens ont dû être abasourdis par cette affirmation. Je suis certain, comme beaucoup sont aujourd'hui, de nos jours, abasourdis, quand ils lisent consciencieusement ce texte. Beaucoup de gens le lisent, ils lisent juste un petit bout, un petit passage. Ils vont dire, ah voilà, je vais prendre le verset 19, ah ça me parle, c'est bien. Ou je prends le verset 8, ah oui, voilà. Mais quand on lit, qu'on médite consciencieusement, qu'on va chercher la signification des mots, qu'est-ce qu'il a voulu dire, et avec le contexte et tout, c'est troublant. Alors mes frères et sœurs, voilà le secret, voilà la révélation. La justice chrétienne ne se différencie absolument pas de la justice des pharisiens par le degré de l'obéissance, mais par la nature. Par la nature de la justice. Il s'agit de vivre la justice du cœur, dans le cœur. La justice de Christ, c'est la justice de la profondeur. L'obéissance des pharisiens s'attachait à la forme. N'est-ce pas ce que Jésus leur reproche? La justice des pharisiens s'attachait à une conformité extérieure. Dieu, lui, il nous dit « je regarde au cœur ». Il veut une justice intérieure. Il veut une justice de l'esprit. Il veut une justice des motivations. On va lire Luc 16, 15. On va faire quelques lectures ce matin. Luc 16, 15. Il est dit là. Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc, ils faisaient tout ce qui était juste. On ne peut pas leur reprocher de faire des choses qui ne sont pas bien. Ils étaient parfaits continuellement. Parce qu'ils étaient continuellement avec les uns et les autres, entre pharisiens, ou alors avec les autres dans leur famille, ou alors avec les autres, on les reconnaissait. Ils avaient une tenue spéciale et tout, et personne ne pouvait les prendre en défaut. C'était parfait, mais ils faisaient ça pourquoi? Pour être vus. On va lire un autre passage. 1 Samuel 16, 7, 8. 1 Samuel, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai dans cette Bible? 1 Samuel 16, 8.
J'ai tellement de choses dans cette Bible.
Voilà. Comme je suis souvent en voyage, je prends des tas de photos avec moi. Alors j'ai des photos de chacun de vous. J'ai même des lettres. Tiens, j'en ai une de Daniel Perrin, là. 16, 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car... Nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint-le, car c'est lui. Vous voyez, Dieu ne fait pas attention au regard. Il dit dans le verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. » Et voilà pourquoi Dieu a choisi David et non pas les autres. Pas qu'ils n'étaient pas bien, mais le cœur. Avant que Jésus vienne, les prophètes, ils avaient annoncé cette justice intérieure, cette justice du cœur qui allait venir comme une bénédiction que Dieu promettait au travers de ses prophètes pour le temps de la venue du Messie, c'est-à-dire du Christ. Et par exemple, vous avez Jérémie qui dit « J'inscrirai mes instructions dans leur conscience, je les graverai dans leur cœur », Jérémie 31-33, vous voyez ? Dans leur cœur, pas sur une table de pierre, pas dans des bouquins religieux, dans leur cœur. Ézéchiel prophétisait disant « Je mettrai en vous mon esprit, je vous ferai marcher selon ma loi, je vous ferai marcher ». C'est lui qui fait marcher. Ézéchiel 36-27. Cette prophétie, elle s'est accomplie, Dieu a mis en nous son esprit et la présence du Saint-Esprit en nous ne nous dispense pas de la loi. Parce que justement, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est précisément d'y inscrire la loi. On vient de le lire. C'était prophétisé, c'est accompli, maintenant il faut le vivre. Et le Saint-Esprit en nous, il est précisément là pour nous faire appliquer la loi. Vous voyez, le Saint-Esprit, la loi, la justice sont intimement liés tous les trois dans nos cœurs. Quand on lit les règles de la communauté des Esséniens, je vous recommande les manuscrits de la Mer Morte, dans la collection La Pléiade, vous allez dans n'importe quelle bonne librairie, il n'y a pas de mauvaise librairie, mais c'est une façon de parler. Et vous demandez les manuscrits de la Mer Morte dans la collection La Pléiade, et là vous avez les règles de la communauté des Esséniens, et il est prophétisé la venue d'un maître de justice, et cette prophétie dit qu'il sera plus exigeant que les pharisiens. Eh bien, leurs prophéties, elles sont accomplies en Jésus-Christ, qui est le maître de justice. Quel maître de justice ? Maintenant, qui est capable de vivre selon les exigences de Jésus ? C'est la grande question. Eh bien, ceux que l'Esprit a régénérés, ceux qu'ils ont recréés, ceux qu'il a fait naître de nouveau, qui se sont engagés à marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair, et qui le font. Voilà pourquoi Jésus dit, sans la nouvelle naissance, impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, versets, je crois, 3 et 5. Alors vous voyez à quel point tout se tient parfaitement, mais encore faut-il trouver les contextes, poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. La loi, elle a un caractère définitif. Jésus est venu pour l'accomplir et nous, ses disciples, nous sommes responsables de l'appliquer mieux que les scribes et les pharisiens ne le faisaient. Voilà le sens des paroles de Jésus. Alors après ça, Jésus va dire... Vous avez entendu dire que, et d'autres fois il dit, vous avez appris qu'il était dit aux anciens que, mais moi je vous dis, verset 21, verset 22, mais moi je vous dis, Jésus se place comme Dieu. Tous les prophètes, ils disaient, ainsi parle l'Éternel, lui non, il dit, moi je vous dis, il démontre par là qu'il est Dieu, il montre qui il est en disant ça, il est Dieu. Il dit, mais moi je vous dis, qui est ce vous ? Ce n'est pas tout le monde. Jésus parle à ceux qui veulent le suivre. À nous qui voulons le suivre, Jésus nous enseigne, et dans son enseignement, il ne minimise pas du tout la loi, et il ne la critique pas. Il dénonce un certain nombre de perversions que les scribes et les pharisiens religieux d'alors avaient introduites dans la loi. Mes frères et sœurs, Jésus ne conteste pas la loi. Alors, qu'on cesse d'entendre aujourd'hui, « Ah, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. » Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? C'est ça qui est important. On ne peut pas parler avec légèreté de ces choses. Jésus reconnaît la loi. Jésus insiste sur l'autorité de la loi. Jésus donne à la loi sa véritable interprétation. Le sermon sur la montagne, c'est ça, c'est l'interprétation de la loi selon Jésus. fort. C'est énorme, comme dirait Lucchini. Alors, voulez-vous connaître l'interprétation de la loi selon Jésus-Christ? Parce que ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui, justement, veulent le suivre. L'interprétation de Jésus, pas l'interprétation de Michel Jonton, l'interprétation de Jésus. Selon Jésus. Parce que j'ai besoin de Jésus, autant que vous tous, pour pouvoir appliquer la loi qui est écrite dans mon cœur. C'est la même que celle qui est écrite dans votre cœur, parce que nous avons le même esprit. On va lire 2 Pierre 1, 19-21. 2 Pierre 1, 19-21. De Pierre, oh là là, 1, 19-21. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voulez-vous connaître l'interprétation de Jésus? Parce que Jésus, lui, quand il interprète, il est le même Dieu qui a donné la loi. Donc il sait ce qu'il dit. Ce n'est pas une interprétation, à mon avis, je pense que la loi... Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je vous dis que... Et alors, on sait ce qu'il veut. La parole prophétique, c'est une lumière, on vient de lire, dans un lieu obscur. Quel lieu obscur? Dans votre cœur, c'est écrit. Jusqu'à ce que l'étoile du matin mette de la lumière pour que vous puissiez lire. Pour que vous puissiez comprendre la loi qui est dans votre cœur. C'est obscur, vous ne pouvez pas. Mais il l'a mise dans votre cœur. Mais maintenant, il faut que l'étoile du matin, Jésus-Christ, le Messie, mette sa lumière pour que vous puissiez lire ce qui est écrit dans votre cœur. Vous puissiez comprendre ce qui est écrit dans votre cœur. Par l'Esprit qui est dans votre cœur, qui éclaire ce qui est écrit. Qu'il a lui-même écrit. Et alors, la parole prophétique, elle devient lisible parce qu'il n'y a plus de ténèbres. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a Jésus en vous. Écoutez bien ça, c'est très subtil. Paul ne dit pas que nous ne devons pas interpréter la prophétie de l'Écriture. Il dit que nous n'avons pas besoin de l'interpréter parce qu'elle a été écrite par le Saint-Esprit et que le même Saint-Esprit qui est Jésus, il est l'étoile du matin qui donne la lumière pour pouvoir la comprendre. Vous comprenez ça? On ne peut pas dire, oui, mais ça c'est ton interprétation de la parole de Dieu. Si c'est écrit, et si j'ai le Saint-Esprit, je sais ce que ça veut dire. Alors, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ou il y en a qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont trop jeunes spirituellement, et qui ne comprennent pas parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas l'ensemble de la, une vision d'ensemble sur les choses de l'analogie de la foi, donc ils ne peuvent pas, encore, ils sont trop... Il faut apprendre, hein, c'est normal, ça prend du temps. Alors, ils sont à tâtons, ils font de leur mieux, mais pour pouvoir comprendre les choses de l'Esprit-Saint, rien ne vaut la présence de l'Esprit-Saint. Et si l'Esprit-Saint demeure en nous, vous n'êtes pas en train d'interpréter, vous simplement vous comprenez, vous lisez, vous comprenez. Alors, c'est certain, maintenant aussi, que Jésus ne dit pas les mêmes choses à tout le monde. Parce que il faut comprendre ça aussi, c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe encore qu'un moteur de voiture. J'aime bien dire ça, parce que moi, quand j'ouvre le capot de la voiture et que je regarde, je comprends rien. Alors, il y en a qui ont essayé de m'expliquer, mais bon, je crois que je fais un blocage, je comprends rien. Oui, je sais où il faut mettre l'huile, je sais où il faut mettre l'essence, voilà. Et encore, il faut bien que je lise pour ne pas me tromper de... ça m'arrive de mettre du gasoil à la place du sans-plomb. Bon, c'est pour vous dire, voilà, il faut... Il y a des spécialistes pour le faire. Et la parole de Dieu, c'est aussi très complexe. Et Dieu ne dit pas les mêmes choses à tout le monde, parce qu'il y a au moins 3 niveaux dans les Écritures, dans ces choses de l'esprit. Il y a le niveau doctrinal, il y a le niveau prophétique et il y a le niveau éthique. Alors, l'Esprit n'enseigne pas la doctrine à tous les disciples. Non. Il se choisit des ministres pour faire ça. Voilà pourquoi il a bâti son église et que dans son église, il a mis des ministères. Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. 5 ministères de la parole. C'est des ministères de la parole. Alors après, maintenant, on peut avoir des ministères de balayeurs dans l'église, des ministères de tout ce que vous voulez, mais il n'y a que 5 ministères de la parole. De ceux qui ont la responsabilité d'apporter la parole à l'église de Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit les a établis et confirmés là-dedans. Donc, il se choisit des ministères pour le faire, en particulier pour les choses de la doctrine. Il s'est choisi les pasteurs et les docteurs. Les évangélistes, eux, ils apportent le béaba aux inconvertis pour les emmener à la foi en Jésus-Christ, au salut, au pardon, puis après, ils les donnent aux pasteurs qui s'occupent d'enseigner les doctrines. La première, c'est le baptême, ensuite, c'est les choses, les doctrines de la guérison, les choses de l'esprit, les doctrines au sujet de la dîme et toutes ces choses-là. Le ministère. Ils enseignent pour que le peuple parvienne à l'unité de la foi. On trouve ça dans Éphésiens 4, chapitre 11, là où il y a les 5 ministères qui sont décrits et le pourquoi ils existent. Le Saint-Esprit n'enseigne pas la prophétie biblique à tout le monde. Non. Non. Le Saint-Esprit ne l'enseigne même pas à tous les ministres. Non. Le Saint-Esprit enseigne ça aux prophètes. C'est au prophète que vient la parole prophétique. Parce qu'il faut un esprit de prophète pour pouvoir comprendre les prophéties bibliques. Pour sonder la prophétie, il faut l'esprit de prophétie. Il faut l'esprit de prophète. Et puis les prophètes, ensuite, enseignent les disciples qui doivent avoir foi dans ce qui est dit. Ils enseignent les prophètes, ils enseignent les disciples et ils enseignent aussi les autres ministères. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir au moins un prophète. Mais pas un prophète qui dit des... Par exemple, un prophète qui va vous dire tu vas voyager ou il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça, ce n'est pas un prophète dans le sens du ministère. Ça, c'est le don de prophétie. Vous comprenez la différence? Il y a des gens qui ont le don de prophétie pour... aider, consoler, diriger, conduire, reprendre. Et ça, c'est le don de prophétie. Mais le prophète, le ministre, c'est autre chose. Il faut comprendre ces choses. Il faut sonder les Écritures et puis voilà. Donc au sujet des choses annoncées dans les Écritures, au sujet de la prophétie, il faut le ministère de prophète. Par contre, le Saint-Esprit enseigne à tous les disciples, au sujet de l'éthique qu'on trouve dans la Bible. À tous. En fait, tous sont enseignés, tout disciple de Jésus-Christ est enseigné par le Saint-Esprit au sujet de l'éthique. Seule l'éthique est enseignée directement par le Saint-Esprit au cœur de chaque disciple. Les autres enseignements, les enseignements doctrinaux et prophétiques, ça passe par les ministères. Dieu l'a voulu ainsi, que sa volonté soit faite. Amen. Donc, le Saint-Esprit parle au cœur de chacun en ce qui concerne l'éthique. Il parle à la conscience de tous. Il faut être humble pour croire ça. Il faut être soumis, il faut être humble. Et c'est pourquoi il y a 5 ministères. Je ne vais pas développer tout ça parce qu'on ne va pas parler ce matin des apôtres et tout ça. C'est une autre chose encore, mais c'est très profond. Maintenant, les prophètes ou les apôtres sont-ils supérieurs aux disciples? Puisqu'alors on peut dire, oui, alors c'est extraordinaire, les ministres, c'est fantastique, Dieu leur parle de choses, ils ne disent pas ça aux autres, alors ils sont certainement supérieurs. Non, ils ne sont pas supérieurs du tout. En tout cas pas au point de vue de l'éthique. Les prophètes, ils ont, et tous les autres ministres, ils ont besoin d'apprendre... Au sujet de l'éthique, ils ont besoin de lutter comme tout le monde, ils ont besoin de se relever s'ils tombent comme tout le monde, ils ont besoin de s'humilier et comme n'importe quel disciple. Alors cependant, ils sont égaux aux autres disciples dans la vie de tous les jours, mais ils ne le sont pas aux yeux de Dieu quant à leur responsabilité. La Bible dit qu'ils seront jugés plus sévèrement que les autres. Alors merci, c'est pas rigolo. Vous voyez ce que je veux dire? On ne rajoutait pas assez. On est déjà jugé par Dieu plus sévèrement. Alors, comment faire quand un prophète, un serviteur de Dieu, un pasteur... C'est pourquoi vous avez la responsabilité d'aider les ministres. Je ne parle pas seulement à vous qui êtes là dans l'église du sanctuaire, je parle à ceux qui écoutent sur Internet, et vous êtes des milliers, et puis maintenant, avec la vidéo, je sais que ça va partir en Afrique, et je vous parle à vous, les frères et sœurs, les disciples de Jésus, vous qui aimez le Seigneur. Quand vous voyez un ministre qui fait une bêtise, quand vous le voyez faillir dans quelque chose, allez le trouver, parlez-lui, expliquez-lui. Mais s'il vous plaît, ne le harcelez pas non plus, parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y en a peut-être 200, 300 derrière, et si les 200 ou 300 font la queue à la porte pour aller engueuler le pasteur il va finir par se décourager, et il va ficher le camp, et il y en a beaucoup qui fichent le camp, et avec la caisse, parce qu'ils ne savent pas faire, ils savent pas comment faire. Et après on dit, il est parti avec la caisse. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été poussés à bout. Alors, s'il vous plaît, je ne dis pas que vous ne devez pas aller trouver votre pasteur, mais reprenez-le comme vous aimeriez être repris vous-même, parce que sur ce niveau de l'éthique, il est la même chose que vous. Vous comprenez ça? Alors, je vous exhorte à prier pour les ministres du Seigneur, parce qu'ils ont une responsabilité, ils vont rendre compte de vous à Dieu, ils seront jugés plus sévèrement que vous. Alors, reprenez-le comme vous aimeriez être repris vous-même. C'est-à-dire... petit à petit, doucement, gentiment, et puis pas tous à la fois, et puis voilà quoi. Le Saint-Esprit sera toujours avec vous pour vous aider, parce qu'au sujet de l'éthique et au sujet de comment il faut faire, c'est aussi écrit dans la Bible, et puis pas seulement dans la Bible, mais aussi dans vos cœurs, vous savez comment il faut faire. Amen. Alors voilà, le Saint-Esprit est toujours avec nous, l'étoile du matin s'est levée dans nos cœurs, cette loi qui est inscrite dans nos cœurs maintenant, plus sur des tables de la loi comme elles sont dessinées là sur notre épée qui représente la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'épée c'est la parole de Dieu, et là il y a la loi, c'est la parole de Dieu, mais elle est plus que simplement gravée sur des tables de pierre, mais elle est maintenant gravée dans nos cœurs. Alors faisons chacun ce que nous avons à faire, et toujours en se rappelant que c'est par amour qu'on va le faire, et avec amour. Et hier soir, je parlais avec le pasteur Samuel, et puis je disais, c'est marrant, il n'y a pas le mot tolérance dans la Bible. Il dit, oui, c'est bizarre, et pourtant, il devrait y être, parce que, dis donc, je dis, oui, puis aussi, il y a le mot expectative, il n'est pas dans la Bible. Et pourtant, qu'est-ce qu'on aimerait bien qu'il y soit? Voilà, donc on est toujours dans l'expectative, on attend toujours le meilleur, et de Dieu, et de son peuple. Et je crois, j'ai la foi en vous, j'ai la foi en Dieu, je sais que ça va aller avec l'aide du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous aider encore et que vendredi nous puissions comprendre encore les choses qui concernent l'interprétation de la loi par toi-même, ô notre Dieu, et que nous puissions vivre ces choses dans la paix pour construire. Amen. Amen.